Pourquoi parler sur une chaîne nationale et à une heure que l'on dit de grande écoute, pourquoi parler d'infections et de maladies sexuellement transmissibles? Eh bien parce qu'elles sont en constante hausse depuis quelques années, parce qu'un rapport vient d'en rendre compte avec des données qu'il faut analyser, parce que les jeunes sont les premiers concernés et que l'été est propice aux rencontres, et aussi parce qu'il est difficile d'en parler autour de soi. Il faut donc informer et prévenir, un vrai problème de santé publique dont nous allons parler avec vous, Nathalie Bajot. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, démographe, directrice de recherche à l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche. Vous avez bien sûr pris connaissance de cette enquête du ministère de la Santé sur le nombre de diagnostics d'infections à chlamydia et à gonocoque. Les jeunes adultes savent de quoi il s'agit. Il me semble qu'il y a à ce sujet un petit décalage d'une génération à l'autre. Alors que sont les infections à chlamydia et à gonocoque? Tout le monde ne le sait pas.
Oui, ce sont des noms un petit peu barbares. En fait, c'est tout simplement, je dirais, des infections qui se transmettent sexuellement, IST, infections sexuellement transmissibles. Ce sont les principales infections qui sont bactériennes. Il y a deux types d'infections sexuellement transmissibles. Il y a des infections bactériennes et des infections virales, parmi les plus connues, le VIH. Donc, il y a toute une diversité d'infections sexuellement transmissibles. Et le rapport qui vient d'être rendu public par l'Institut Santé Publique France est assez préoccupant parce qu'il montre une augmentation assez importante des infections à chlamydia et gonocoque, en particulier chez les jeunes de 15 à 24 ans. Et ces chiffres-là doivent alerter parce que au-delà des questions méthodologiques qui peuvent expliquer une évolution, je crois que c'est pas le lieu ici de rentrer dans ces détails. En tout cas, les données attestent d'une augmentation chez les plus jeunes, alors que ces infections sont finalement faciles à dépister et très faciles à traiter. Donc je crois que l'enjeu est effectivement important d'en parler, même si ça ne suffit pas, mais c'est en tout cas une étape importante.
Quels sont les risques et les conséquences sur la santé à moyen terme de ces bactéries?
Alors, si ces infections ne sont pas traitées, elles peuvent provoquer à terme toute une série de complications, dont la complication la plus grave, je dirais, c'est le risque de stérilité, notamment chez les femmes. La grande difficulté de ces infections, c'est que le traitement est très, très simple et très efficace. Il s'agit d'une dose d'antibiotiques par voie orale pour les chlamydia, par voie injectable pour les gonos. C'est très simple, c'est très efficace de se faire traiter. Donc la seule façon de savoir si on est porteur ou pas, il y a parfois des signes d'appel, parfois il n'y en a pas, c'est de se faire un test de dépistage. Et je crois que la question des signes d'appel est très importante à souligner parce que dans la très grande majorité des cas, ce sont des infections dites silencieuses, c'est-à-dire qu'on est porteur, mais que le corps n'exprime visiblement aucune manifestation. Parfois, c'est le cas de 90% des femmes qui sont touchées par l'infection à chlamydia, qui n'ont pas aucun signe, et 50% des hommes. Alors, ce qui veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer uniquement sur des signes pour décider de se faire dépister. La règle, elle est en fait assez simple. C'est dès qu'on a des rapports sexuels non protégés avec l'utilisation d'un préservatif, avec des nouveaux partenaires ou avec plusieurs partenaires, à ce moment-là, il faut penser à se faire dépister absolument.
Parce que si on est dépisté positif, par exemple, pour l'infection à chlamydia ou à gonocoque, quelques mois plus tard ou années plus tard, puisque les symptômes ne sont pas visibles, ces bactéries sont quand même susceptibles
absolument
de disparaître avec le traitement antibiotique.
Elles disparaissent tout de suite avec le traitement, mais encore une fois, comme ces signes qui sont des signes d'alerte, par exemple, tout ce qui concerne le fait d'avoir des écoulements un peu anormaux, du vagin ou de l'urètre doit alerter, le fait d'avoir des brûlures en urinant, le fait d'avoir des douleurs pelviennes, tout ça, ce sont des signes d'alerte, mais encore une fois, la question c'est que très souvent il n'y a pas de symptômes, donc ça ne suffit pas de se dire je vais attendre d'avoir des signes pour consulter. Et puis il y a un autre point, je crois, qui est vraiment important à souligner, c'est que pour beaucoup de personnes, ces maladies, ces infections sexuellement transmissibles se transmettent lorsqu'il y a une pénétration, qu'elle soit vaginale ou anale. En fait, ça se transmet effectivement lors de pratiques de pénétration, mais ça se transmet également lors des rapports bucco-anaux, c'est-à-dire lors des fellations et cunnilingus. Donc toutes les pratiques sont en jeu, et dès qu'il y a des contacts sexuels intimes, là, il peut y avoir une transmission de ces infections sexuellement transmissibles.
Alors vous dites que ce sont des infections asymptomatiques dans la plupart des cas, donc par définition, tous ceux et toutes celles qui en sont atteints n'ont pas franchi la porte dans le laboratoire. Donc les chiffres sont nécessairement de cette étude sous-estimés, mais les voici quand même. En 2016, on répertorie 267 097, soyons précis, infections à chlamydia, 49 628 infections à gonocoque. Vous qui travaillez, Nathalie Bajos, sur ces questions depuis longtemps, quels sont, dans cette étude, les indicateurs qui vous paraissent vraiment révélateurs? Est-ce qu'on peut vraiment parler de recrudescence de ces infections?
Oui, ce que montrent les résultats de l'étude, encore une fois, c'est une augmentation par rapport à la dernière étude de 2012. Alors, elle est pas nécessairement aussi statistiquement importante que ce que montrent les chiffres. Les auteurs le disent bien d'ailleurs parce qu'on pense que les données de 2012 étaient un peu sous-estimées. Vous l'avez rappelé, ce sont des chiffres qui sont issus de laboratoires. Donc, il y a un certain nombre, par définition, je dirais que toutes les personnes qui ne se font pas dépister ne sont pas dans cette enquête. Et on sait très bien par des études complémentaires que un certain nombre de personnes qui sont concernés et qui seraient diagnostiqués positifs si elles se faisaient diagnostiquer, ne sont pas dans ces chiffres. Donc je crois qu'on peut être effectivement très précis sur le nombre et le taux que ça représente. Je crois que le point important, c'est que, un, il y a une augmentation depuis l'année 2012 qui ne s'explique pas que par des raisons méthodologiques. Donc il y a très très vraisemblablement une vraie augmentation de ce qu'on appelle l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas dans une population. Donc augmentation de ces infections les plus fréquentes, chlamydia et gonocoque, et ce sont des infections sexuellement transmissibles qui sont faciles à traiter, avec un traitement très efficace, et qui, si, je crois qu'il faut vraiment le rappeler, si elles ne sont pas traitées, peuvent avoir des conséquences à long terme, un risque de grossesse extra-utérine pour les femmes, un risque de stérilité pour les deux sexes, particulièrement marqué chez les femmes, des douleurs pelviennes, etc. Donc, l'enjeu, c'est, je dirais que c'est un problème de santé publique quelque part assez simple, parce que on a un traitement très efficace et le test de dépistage est facilement accessible. Donc, il faut se faire dépister et il faut se traiter directement. Et puis, il faut aussi, ce qui est plus compliqué, c'est traiter les partenaires. C'est-à-dire qu'en fait, il suffit pas qu'une personne se fasse traiter. Si ses partenaires ont aussi la même infection et eux-mêmes continuent à avoir des rapports sexuels avec d'autres partenaires, c'est la question des réseaux sexuels, tout simplement. Donc on voit bien que pour que vraiment le traitement soit efficace, il faut traiter la personne informée, mais il faut qu'elle puisse prévenir ses partenaires pour que ceux-ci se traitent également.
C'est une étude qui donne des chiffres par région, par âge et par sexe. C'est assez nouveau de classifier les choses comme ça. Qu'est-ce que révèle l'étude régionale des chiffres, l'étude géographique? Dans les deux cas, les taux de diagnostic d'infection sont très élevés à Paris et en Île-de-France, dans le sud-est aussi, en région PACA et en Occitanie. Est-ce que ça veut dire quelque chose?
Alors, oui, ça veut dire quelque chose, même si le principe de cette étude, c'est qu'elle est basée sur les retours des laboratoires. Donc on sait qu'il y a des laboratoires, et les auteurs le disent d'ailleurs dans l'étude, qui répondent moins que d'autres. Donc,
mais entre parenthèses, c'est surprenant ça pour quelqu'un qui ne sait pas, parce qu'on pourrait se dire que tous les laboratoires sans cesse font remonter leurs résultats pour que les autorités publiques puissent dessiner des politiques de santé adaptées à
alors,
ce qui est en train de se passer.
Il n'y a pas besoin de les faire remonter sans cesse. Des bonnes enquêtes de temps en temps, c'est largement suffisant pour établir une bonne cartographie. Là, il se trouve qu'il y a des taux de retour des laboratoires qui peuvent être différents d'une région à l'autre. Mais ce qui est important quand même, c'est que cette cartographie que présente l'étude recoupe de manière assez logique, d'un point de vue épidémiologique, la cartographie de l'infection à VIH, qui est, il faut le rappeler, aussi une infection sexuellement transmissible. Certes particulière, puisqu'elle le virus du VIH, du sida, est un virus particulier et que les effets sont extrêmement importants. Mais en tout cas, on voit qu'effectivement, les zones dans lesquelles il y a le plus de chlamydia et de gonocoque, ce sont les mêmes que les zones dans lesquelles il y a le plus de VIH. Et puis, la question aussi des territoires ultramarins, où l'incidence des infections sexuellement transmissibles, qu'elles soient virales ou bactériennes, est extrêmement élevée. Donc oui, il y a une différence selon les régions, oui, il y a une différence selon l'âge, mais ces différences, elles sont pas liées au fait que quelqu'un de 15 ans a des comportements très particuliers ou quelqu'un qui habite en Guadeloupe a un comportement complètement différent de quelqu'un qui habite en Lozère. Ces différences, elles traduisent aussi le fait que les infections sont beaucoup plus fréquentes dans certaines régions que dans d'autres. Et donc quand vous avez un rapport sexuel avec quelqu'un en Lozère, vous avez statistiquement moins de risques de rencontrer un partenaire qui est porteur que quand vous avez quelqu'un, un rapport sexuel avec une personne en Guadeloupe où la prévalence de ces infections est beaucoup plus élevée.
Nathalie Bajos, qu'est-ce que ce genre d'enquête très factuelle, chiffres et statistiques, comment vous aide-t-elle dans votre travail de sociologue? Qu'est-ce que vous en faites ensuite pour en tirer éventuellement des conclusions?
Je dirais que ce genre d'enquête est extrêmement utile parce que ça nous alerte sur des évolutions qui sont quand même assez significatives et en particulier chez les jeunes, et que ça nous interroge sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la sexualité des jeunes, qu'est-ce qui se passe au niveau de la prévention, pourquoi ces chiffres augmentent-ils ? Est-ce que c'est parce que les jeunes ont beaucoup plus de partenaires non protégés, avec des rapports sexuels non protégés ? Est-ce que c'est parce que les jeunes se dépistent davantage aujourd'hui qu'ils ne le faisaient dans les années précédentes ? Et auquel cas cette augmentation des infections sexuellement transmissibles reflèterait aussi une plus grande propension à se dépister pour les jeunes. Donc ça nous alerte sur le fait que je crois que également sur un point important, c'est que ça renforce l'idée qu'il faut arrêter de parler d'un côté de l'infection à VIH, il faut évidemment en parler. Il y a d'ailleurs le 22e congrès mondial qui se tient en ce moment à Amsterdam sur le sujet. Mais parler d'un côté du VIH, de l'autre côté des autres IST, je crois que ces chiffres plaident très clairement pour une approche beaucoup plus globale de santé sexuelle qui reste à développer en France, parce que c'est pas dans la culture française d'avoir une approche globale de santé sexuelle. Il y a pas d'un côté le VIH, d'un côté, de l'autre côté les IST, d'un autre côté encore la question de la contraception et du recours à l'avortement, encore d'un autre côté la question des violences sexuelles. Si d'un point de vue administratif, on sépare les choses, les personnes dans leur vie quotidienne, dans leur vie sexuelle, évidemment, ne séparent pas ces différentes questions de santé, et on gagnerait beaucoup d'un point de vue scientifique et d'un point de vue des politiques publiques, à avoir une approche beaucoup plus globale et à parler aux jeunes en même temps de toutes ces questions, d'abord du plaisir lié à la sexualité, puisque c'est quand même la finalité principale pour beaucoup de personnes d'avoir du plaisir dans leur rapport sexuel, et puis ensuite des risques qui sont attachés sans les saucissonner, si je puis me permettre cette expression, mais vraiment d'avoir une approche globale et qui ne repose pas uniquement, et je pense que c'est important qu'on revienne sur ce point-là, ça n'est pas qu'une question d'information, ça n'est pas qu'une question d'accès au dépistage et au traitement, ce sont évidemment des enjeux essentiels, mais derrière ces enjeux-là, qui ont plus directement de santé publique, il y a des enjeux majeurs autour de la question de la reconnaissance sociale de la sexualité, de la lutte contre les discriminations, de l'éducation à la sexualité, et c'est vraiment le socle d'une politique de prévention efficace que de jouer sur ces dimensions-là.
Voilà, et on en parlera plus longuement tout à l'heure après le journal. Nathalie Bajos, on ne peut pas saucissonner, comme vous dites, toutes les politiques, en tout cas les questions liées à l'éducation sexuelle et à l'information sur les maladies sexuelles, sexuellement transmissibles. Sur le sida, évidemment, on annonce, et c'est tant mieux, de bonnes nouvelles sur le front de la prévention. On nous parle de cette PrEP, la PrEP, ce traitement par prophylaxie qui agit en bloquant le virus, et apparemment dans les expériences menées en laboratoire, pour l'instant ça a fonctionné à 100%, on peut peut-être en dire un mot, mais est-ce que ces bonnes nouvelles ont contribué à un relâchement et notamment de la part des jeunes sur la vigilance en fait par rapport au port du préservatif et à la protection?
Alors c'est deux questions compliquées. La PrEP a démontré son efficacité bien plus que dans des études en laboratoire, comme vous dites, en population concernée. C'est d'ailleurs des résultats qui ont été présentés ou qui vont l'être au colloque d'Amsterdam. La PrEP, c'est un traitement qui doit être pris par des personnes qui ont un risque très élevé et qui ne peuvent ou qui ne veulent pas utiliser de préservatif juste autour du rapport sexuel, avant le rapport sexuel et juste après, pour éviter une contamination. Et c'est très très efficace, et c'est un nouvel outil formidable de prévention contre le VIH, même si ça ne protège absolument pas des autres IST. Mais c'est un nouvel outil absolument formidable. Et je trouve que l'exemple de la PrEP est particulièrement intéressant pour illustrer l'intérêt d'une approche santé sexuelle. Parce que si on avait une approche beaucoup plus large, on aurait pu faire un parallèle qu'on a fait dans les milieux scientifiques, mais autour de la contraception et la prévention du VIH et des autres IST. En matière de contraception, il y a une palette de moyens de contraception qui sont disponibles pour les femmes et pour les hommes, parce qu'ils sont quand même tout autant concernés par la contraception. Mais vous avez la pilule contraceptive, vous avez le stérilet, vous avez l'implant, vous avez le préservatif, etc., etc. Et on se rend compte que plus les moyens de contraception sont diversifiés, plus les femmes et les hommes trouvent les moyens qui conviennent à leur vie affective et sexuelle, et moins il y a de grossesses non prévues, non souhaitées. Ben, c'est un peu un parallèle très important et très intéressant à faire avec le VIH. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des moyens de prévention. Il y a évidemment le préservatif qui reste l'outil de base. Il y a la possibilité aussi d'avoir aucune pratique de pénétration. Maintenant, il y a aussi la PrEP qui s'annonce. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les résistances qu'il y a eu à la diffusion de la PrEP, qui n'est toujours, enfin qui est maintenant remboursée par la Sécurité sociale, mais qui ne fait toujours pas l'objet de campagnes d'information et de communication auprès des groupes ciblés, sauf par les associations de lutte contre le sida.
De quel ordre ces réticences ?
Ben justement, c'est ça qui doit être interrogé. Pourquoi ce moyen de contraception, dont on sait qu'il est extrêmement efficace, pourquoi on ne le promeut pas de manière beaucoup plus active ? Et on peut penser que derrière ces réticences à promouvoir ce type de moyens de prévention se cachent encore des résistances finalement à reconnaître l'homosexualité, la sexualité entre deux femmes ou entre deux hommes, en l'occurrence entre deux hommes pour le VIH, comme une sexualité exactement comme une autre. Et finalement, on avait aussi des résistances quand la pilule est arrivée sur le marché. Souvenez-vous des propos du général de Gaulle quand la pilule a été commercialisée en France. Et derrière tout ça, on voit que ce sont toujours des résistances vis-à-vis de la sexualité, et notamment vis-à-vis des sexualités qui ne sont pas dans le cadre normatif dominant, en particulier les relations homosexuelles ou pour les femmes, les sexualités à finalité non reproductive. Dès qu'on sort de la norme, il y a un rappel à l'ordre social, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la PrEP n'a pas fait l'objet d'une communication aussi importante. Et alors même que plus on diversifiera les moyens de prévention, plus on aura une prévention efficace.
La PrEP, qui est l'objet d'ailleurs d'un magazine de la rédaction qui sera rediffusé demain à 17h sur France Culture. La PrEP est-elle la pilule miracle anti-VIH par Antoine Marette, Aurélie Kiefer, Annie Brault. Madame Bajos, depuis quand y a-t-il des enquêtes? Vous parlez de normes. Depuis quand y a-t-il des enquêtes nationales sur les comportements sexuels des Français et qui donnent un recul nécessaire pour constater ou pas des évolutions, puisqu'on n'arrête pas de dire que les pratiques ont beaucoup changé, que les jeunes aujourd'hui ont des pratiques que les adultes ne peuvent pas comprendre.
Alors, il y a la première enquête nationale sur la sexualité en France date de 1970. Elle a été faite au lendemain de la légalisation de la contraception, d'ailleurs, par Pierre Simon et son équipe. Il a fallu attendre ensuite l'année 1992 pour qu'une nouvelle enquête nationale soit réalisée, qui a été demandée par l'Agence nationale de recherche sur le sida, qui était vraiment une enquête qui a été conduite vraiment pour informer les politiques sur l'état de la situation de la sexualité en France et des pratiques de prise de risque et de prévention.
Sous l'angle du risque et des politiques sanitaires.
Du risque VIH. Cette enquête a été reconduite en 2006, toujours à la demande de l'Agence nationale de recherche sur le sida.
C'est vous qui l'avez conduite,
oui,
avec Michel Bozon.
Absolument, et la précédente avec Alfred Spira. Et depuis, il n'y a pas eu d'autres enquêtes, mais il y en a une qui va démarrer à la rentrée, une nouvelle enquête nationale sur le sujet, et qui est effectivement très importante pour tout un tas de raisons, mais en tout cas, déjà pour suivre les évolutions dans le temps, voir quelles sont les évolutions non seulement des pratiques sexuelles, mais aussi des représentations, traiter d'un certain nombre de questions de santé sexuelle autre que le VIH, dont les IST, mais aussi bien d'autres, la question de l'endométriose, la question des rapports sur des interventions gynécologiques sur le corps des femmes à l'occasion de l'accouchement. Enfin, il y a toute une série de questions qui vont être posées et qui vont permettre effectivement de fournir des données de référence sur la sexualité, parce qu'il est vrai qu'on entend énormément de choses sur la sexualité, en particulier sur la sexualité des jeunes, qui auraient une entrée en sexualité bien plus précoce qu'auparavant, qui auraient un nombre extrêmement élevé de partenaires par rapport aux générations précédentes. Alors, on attend les chiffres de cette nouvelle enquête, mais d'ores et déjà, ce qu'on peut souligner, c'est qu'il est sociologiquement très peu probable qu'il y ait eu des explosions dans le nombre de partenaires sexuels, et que s'il y a sans doute eu une baisse de l'âge au premier rapport sexuel qu'on avait observé ces dernières années, parce que le mouvement global, c'est une diversification croissante de l'activité sexuelle, on n'est pas dans les chiffres et les fantasmes qui transparaissent dans les positions de certaines et de certains sur la sexualité des jeunes. Mais ce qu'il faut noter quand même, et qui est directement lié au sujet qu'on traite ce matin, c'est qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces dernières années ? C'est quand même l'explosion de la révolution numérique et des conséquences que ça peut avoir sur la sexualité réelle et virtuelle et sur les représentations.
Voilà, tout ça est affaire aussi de politique publique, affaire d'éducation sexuelle, et on en parlera après le journal. Nathalie Bajos, vous restez avec nous. On vous retrouve dans un quart d'heure.